Bonsoir, c'est un nouveau temps du débat qui s'ouvre sur France Culture et alors que se tient en Allemagne le tout premier procès d'un tortionnaire syrien, une question nous occupe jusqu'à 19h, à quoi sert encore la justice internationale ? C'est une drôle de coïncidence qui débouche aujourd'hui sur un procès historique. Anwar al-Bouni est syrien. Cet avocat né en 1959 compte parmi les opposants de longue date au régime de Bachar el-Assad. Il a même passé 5 ans en prison et n'en est sorti qu'en 2011 à l'aube de la révolution. Quelques années plus tard, alors que la Syrie s'enfonce dans la guerre et dans la violence, Anwar doit se résoudre à quitter son pays. En 2014, il atteint l'Allemagne où il demande et il obtient l'asile. C'est alors que se produit l'impensable. Un après-midi d'hiver, en balade à Berlin, Anwar al-Bouni croise un homme dont le visage lui est familier. « Je connais cet homme », lance-t-il à sa femme. « Il lui faudra quelques jours de plus pour retrouver son identité. L'homme que j'avais vu, c'était celui qui m'avait arrêté à Damas en 2006. Un ancien membre du renseignement syrien, un tortionnaire qui a déserté en 2012 avant de lui aussi se réfugier en Allemagne. 4 ans plus tard, cette drôle de coïncidence débouche sur le tout premier procès des exactions commises par le régime syrien. Il s'est ouvert le 23 avril dernier à Koblenz, ville moyenne de l'Est allemand, avec sur le banc des accusés Anwar Raslan, le tortionnaire, accusé de 58 meurtres et de 4000 cas de torture, mais aussi Eyad Al-Gharib, officier subalterne, poursuivi pour complicité. Un procès exceptionnel car il est le premier, mais aussi car il se tient devant un tribunal allemand. Or, habituellement, c'est la Cour pénale internationale qui juge les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Mais dans le cas de la Syrie, l'allié russe, qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, a posé son veto à toute poursuite. Alors que faire ? Eh bien, pour se saisir malgré tout de l'affaire, le tribunal de Koblenz a fait valoir sa compétence universelle, une disposition du droit qui lui permet de juger des crimes qui n'ont pas été commis sur son sol, s'il s'agit de crimes contre l'humanité. Mais dans ces conditions, à quoi sert encore la justice internationale ? Les justices nationales peuvent-elles s'y substituer légitimement ? Les institutions pénales internationales ont-elles encore un rôle à jouer ? Peut-on construire autrement une justice commune ? Jusqu'à 19h, nous tenterons de répondre à ces questions avec nos 3 invités que je reçois à distance ce soir. Clémence Bechtart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la Fédération internationale pour les droits humains, une ONG qui accompagne les victimes de crimes internationaux dans leur démarche. Avec nous également Sarah Dezalet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignante-chercheuse en sociologie et en droit international à l'université de Cardiff au Royaume-Uni et chercheuse affiliée à l'Institut des mondes africains. Et puis pour finir, bonsoir Anne-Charlotte Martineau.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS en sociologie et en sciences du droit.
Nous voulons qu'ils soient ici avec nous, qu'ils s'assoient ici. Je veux que mon père soit ici, qu'il s'assoie ici à côté de moi. Je veux que tous les 130 000 détenus en Syrie soient ici et aient la chance de parler pour eux-mêmes et d'exiger justice, responsabilité et liberté pour la Syrie. Ce qui se passe dans ce tribunal est très important et c'est un grand pas. Un grand pas vers la responsabilité et la justice pour la Syrie. Mais la justice pour la Syrie et pour les Syriens ne sera jamais atteinte tant que tous les détenus ne seront pas libérés. Jusqu'à ce que tous les hauts fonctionnaires du régime d'Assad, y compris Assad lui-même, soient également poursuivis.
La voix que vous venez d'entendre est celle de Wafa Mustafa, une jeune femme syrienne qui a fui son pays, mais dont le père est toujours emprisonné sur place dans une prison du régime. Elle se félicite à l'ouverture du procès de Koblenz des démarches de la justice allemande, tout en déplorant que les hauts responsables du régime syrien ne soient pas poursuivis. Clémence Bechtart, vous qui accompagnez les victimes avec la Fédération internationale pour les droits humains, est-ce que le procès de Koblenz signifie la fin de l'impunité pour le régime syrien ?
Non, loin de là. Ce n'est pas la fin de l'impunité, c'est sûrement, en tout cas il faut l'espérer, le début de quelque chose. C'est d'abord une grande victoire, d'abord pour les victimes syriennes, pour les activistes syriens, les avocats syriens, vous parliez tout à l'heure d'Anwar al-Bouni, il en fait partie, qui depuis des années, et plus précisément je dirais depuis 2014, moment où On a tous réalisé que la Cour pénale internationale ne serait pas saisie en raison du veto russe au Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, ces efforts se sont tournés vers la compétence universelle, vers les juridictions européennes en Allemagne, en France, en Espagne, en Belgique, en Suède, où des plaintes ont été déposées et où des victimes syriennes ont eu le courage de raconter l'horreur qu'elles avaient vécue, victimes qui avaient réchappé aux horreurs du régime, à la détention, à la torture, et qui ont accepté de livrer leurs histoires, et puis aussi des activistes syriens qui se sont organisés pour que les preuves puissent être accessibles, pour que ces enquêteurs allemands, belges ou encore norvégiens puissent, alors qu'ils n'avaient pas accès au terrain syrien, eh bien avoir accès aux preuves, non seulement à des témoignages, mais aussi à des preuves des crimes commis. Donc je dirais que c'est en cela une formidable avancée, une formidable victoire, parce que c'est le premier procès, on espère qu'il sera suivi d'autres procès ailleurs en Europe et peut-être un jour aussi d'un processus de justice qui sera plus inclusif et qui permettra, oui, de viser les plus hauts responsables du régime syrien qui, eux, sont toujours en place. Mais cela reste, 4 ans après, on l'a dit, le début de ces enquêtes, un formidable facteur d'espoir pour les victimes et aussi pour toutes celles et ceux qui continuent de réclamer la justice pour les crimes qui ont été commis et qui continuent d'être commis par le régime syrien. Alors j'ajouterais juste 2 bémols à ça. La première chose, c'est que l'ouverture de ce procès, elle a quand même suscité une certaine controverse parmi la communauté syrienne parce qu'il s'agit de quelqu'un, Anwar Aslan, hein, le principal accusé, qui a fait défection en 2012. C'est la raison de sa présence en Allemagne. C'est comme ça qu'il a pu être arrêté et traduit en justice. Et donc, il y a eu certaines controverses se demandant pourquoi cette justice universelle ne s'attaquait pas aux plus hauts responsables toujours en place, mais à ceux comme Anwar Aslan qui avaient fait défection et qui avaient donc quitté, déserté le régime. Et puis, deuxième aussi controverse, je dirais, parce que il s'agit là d'un accusé ou de 2 accusés, mais d'un accusé important, d'un procès emblématique dont on a beaucoup parlé. Et pour autant, on constate sur le terrain, en Syrie, que le régime syrien, eh bien, aujourd'hui a gagné la guerre. Et on entendait tout à l'heure cette femme le dire dans votre sujet. Les détenus sont toujours en détention. Les disparus le sont toujours. Donc c'est un processus de justice qui est pour l'instant décorrélé de ce qui se passe en Syrie. Et donc on a aussi énormément de victimes syriennes qui demandent à ce que cet effort de justice puisse à terme avoir des effets sur leur quotidien en Syrie, sur le sort des disparus, sur les personnes qui sont encore détenues. Et ça, on en est encore loin, il faut le dire.
Sarah Dezallet, le procès de Koblenz, malgré les limites que vient de soulever Clémence Bechtard, vous considérez que c'est une vraie avancée face à une justice internationale qui ne peut rien faire ?
Alors, je dirais oui et non. Première avancée, c'est un appareil de preuve qui est à la fois nouveau et phénoménal. C'est un appareil de preuve qui a été constitué méthodiquement depuis 2011, comme l'a rappelé Clémence Bechtard, par tout un ensemble d'acteurs, d'activistes à la fois européens, canadiens, syriens eux-mêmes, au péril de leur vie, très
oui,
souvent.
Je précise qu'il y a environ 50 000 photos, un peu moins de 50 000 photos qui ont été exfiltrées par un ancien photographe légiste du régime et qui sont utilisées comme preuve dans cette affaire.
Voilà. Alors, et l'idée explicite recherchée par les promoteurs, en gros, de ce nouvel appareil de preuve, c'est de constituer la preuve vivante pendant que le conflit a encore lieu, pour pouvoir la mettre en réserve, si j'ose dire, pour pouvoir favoriser une justice plus tard, quand le moment sera favorable. Donc là, c'est l'aspect phénoménalement positif, je dirais. Quant au rapport, sinon, de ces évolutions par rapport à ce que vous appelez une crise de la justice internationale, il faudrait quand même rappeler un élément important. Le statut de Rome, qui a porté création de la Cour pénale internationale, repose sur un principe central qui est celui de la complémentarité. La complémentarité, ça veut dire que la Cour pénale internationale est censée intervenir seulement en cas de défaillance ou de manque de volonté des autorités nationales. Donc, il n'y a pas a priori d'opposition frontale entre compétences universelles ou droit pénal international ou procès pénaux internationaux tels qu'appliqués par des juridictions nationales et la justice internationale telle qu'instituée par la Cour pénale internationale. Voilà, je m'arrêterai là pour l'instant.
Anne-Charlotte Martineau, quel est votre avis sur ce procès de Coblence? Est-ce que c'est un vrai premier pas pour rendre justice dans les crimes qui ont été commis par le régime syrien, ou est-ce que c'est un procès d'ordre plutôt symbolique pour l'instant?
Je crois que c'est difficile de prononcer pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que la compétence universelle a traditionnellement suscité des réserves, voire des protestations, du fait qu'elle serait une violation du principe de la souveraineté. Elle a fait des vagues à la fin des années 90, on se souvient de l'arrestation de Pinochet, mais aussi des protestations par la Chine, les États-Unis et Israël, dont les dirigeants faisaient l'objet de mandats d'arrêt en Belgique et en Espagne. Et à la même époque, la création des juridictions internationales, que ce soit pour le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie, et même la Cour pénale internationale, reposait sur l'idée qu'il fallait retirer la poursuite des crimes les plus graves du cadre national, qui était beaucoup trop politisé ou fragilisé. Il fallait dénationaliser ces poursuites en créant des institutions internationales. Et il me semble qu'on est peut-être partiellement revenu de ce modèle, comme le montre le procès de Coblence. Et sur le plan du droit, c'est peut-être une avancée, au moins au niveau de la justification de la compétence universelle. Parce qu'il y a un lien qui est en train de se créer entre la compétence universelle et les diasporas. Comme vous le rappeliez au début de l'émission, les crimes de masse génèrent des migrations, des victimes comme des bourreaux. Et parfois, elles se rencontrent dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers. Et donc, ce sont ces diasporas qui activent la compétence universelle. Et peut-être que ce phénomène offre une autre justification à la compétence universelle qui est compatible avec la souveraineté des États. C'est le principe d'hospitalité. La compétence universelle ferait partie des prérogatives de l'État d'accueil. Elle ferait partie des outils à disposition pour que les réfugiés et les migrants se sentent en sécurité dans leur société d'accueil. Et sur le plan du droit international, ça me semble être une avancée.
Clémence Bechtard, vous êtes d'accord avec ce que vient d'établir Anne-Charlotte Martineau?
Alors, c'est vrai qu'on a là, à travers non seulement le procès de Koblenz, mais je dirais plus généralement les dynamiques qui ont été mises en place s'agissant des crimes commis en Syrie, en Europe autour de la compétence universelle, un certain nombre d'avancées. Il est vrai qu'il y a une grande mobilisation de la diaspora syrienne, que ce sont des activistes syriens, des victimes syriennes qui sont réfugiées en Europe et qui très vite se mobilisent, très souvent en partenariat avec des ONG européennes ou internationales, pour pouvoir activer cette compétence universelle. Je dirais que ça, c'est d'abord un signal très fort parce que c'est une garantie d'appropriation du processus. On sait à travers cela, et on le voit d'ailleurs au travers du procès de Koblenz, que ce sont les victimes elles-mêmes qui saisissent cette justice, et c'est aussi une garantie d'appropriation non seulement par elles-mêmes, mais par les communautés affectées en Syrie ou dans les pays limitrophes, là où se trouve l'essentiel des réfugiés syriens. Donc, il est évident que ça donne un autre écho et une autre ampleur à cette compétence universelle, aussi parce que, et c'est la deuxième fois depuis, je dirais, les procédures ouvertes en Europe s'agissant du génocide des Tutsis au Rwanda, eh bien, c'est la deuxième fois qu'un nombre aussi important de procédures est ouvert devant un nombre varié de juridictions européennes s'agissant d'un même conflit. Donc ça donne aussi une grande ampleur à ces procédures. Ça permet des collaborations aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de coopération judiciaire entre ces différentes justices, la justice allemande et la justice française, allant même jusqu'à ouvrir des enquêtes conjointes. Donc on voit là, effectivement, de nouvelles dynamiques se mettre en place autour de cette compétence universelle. Mais il faut le rappeler aussi, parce qu'on est dans une situation où il y a eu une certaine volonté politique de rendre cela possible. Et on se retrouve là aussi dans les limites, je dirais, de l'exercice, c'est-à-dire quand il y a des obstacles politiques plus importants, ces procédures, que ce soit en compétence universelle ou devant la Cour pénale internationale, ont du mal à prospérer, ont du mal à aboutir. Or là, on a vu émerger au niveau européen une certaine volonté politique au niveau de l'Allemagne, de la France, mais d'autres États, de faire en sorte, devant l'impasse dans laquelle on se trouvait au niveau de la Cour pénale internationale, de faire en sorte que ces enquêtes puissent être possibles.
On reviendra sur les entraves que peuvent poser le politique au bon fonctionnement de la justice internationale. Mais d'abord, Sarah Dezalet de l'Université de Cardiff, vous avez soulevé tout à l'heure un point qui me paraît intéressant. C'est qu'habituellement, les grands procès internationaux pour crimes contre l'humanité ont lieu une fois le conflit achevé. Là, à Koblenz, ce sont deux torsions fonctionnaire de l'unité 251, une des prisons du régime de Damas, qui sont jugés aujourd'hui, alors même que des Syriens sont actuellement toujours torturés sur place dans cette prison, dans cette même unité. Qu'est-ce que ça change dans la façon de rendre justice ?
Alors disons que ça ne change rien par rapport à la Cour pénale internationale, puisque c'est également une institution qui a vocation à rendre justice en temps réel, à savoir pendant que des conflits armés ou politiques ont encore lieu. Et c'est l'un des problèmes principaux de la Cour pénale internationale, parce que ça veut dire que les victimes des uns sont forcément les bourreaux des autres pendant que le procès se déroule. Moi, je dirais que la nouveauté, elle se situe encore une fois plutôt dans le caractère novateur de l'appareil de preuve qui est constitué, qui peut permettre de faire des procès par la suite, y compris dans le cadre d'une transition politique qui pourrait être espérée, même si elle n'est pas escomptée dans l'immédiat, même si tout ça dépendra de la volonté politique des autorités de transition ou de la volonté politique d'autres autorités dans des États des juridictions qui seraient prêtes à invoquer la compétence universelle.
Donc vous espérez qu'un jour, sur la base de l'appareil de preuve qui est déployé à Koblenz, un procès ait lieu en Syrie, avec un tribunal syrien et des acteurs syriens?
Alors c'est en tout cas l'espoir qui a été vocalisé par les fondateurs d'une organisation qui s'appelle la Commission for International Justice and Accountability, qui est celle qui a été l'un des moteurs de la constitution de cet appareil de preuve, et qui est née d'une alliance insolite, si je peux dire, entre un entrepreneur, Bill Wiley, ancien militaire, qui lui a participé à des enquêtes dans le cadre des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et également à la CPI, mais aussi d'autres grandes sommités de la justice pénale internationale institutionnalisée, comme Stephen Rapp, qui eux se sont dit qu'il fallait transformer la façon dont la preuve était mobilisée et dont elle était constituée. J'ai évoqué tout à l'heure cette idée de preuve vivante. Le régime syrien, si j'ose dire, hein, avec une dose de second degré, c'est un régime qui se prête particulièrement bien à la constitution de cet appareil de preuve parce qu'il est exceptionnellement bureaucratique. Vous avez évoqué tout à l'heure les photographies de César, elles sont toutes numérotées, elles sont documentées. Tout ce qui reste à trouver, c'est quelque part les victimes pour raccrocher les noms des personnes qui figurent sur ces photos et leurs parents, leurs enfants, leurs pères, leurs mères ou leurs frères et leurs sœurs.
Clémence Bechtart, avocate à la Fédération internationale pour les droits humains, vous souhaitiez réagir ?
Oui, juste en complément de ça, je veux dire, au-delà de ce qu'ont théorisé Bill Wiley, Stephen Rapp ou les autres, il y a aussi de la part des militants syriens eux-mêmes une grande conscience que ces procès, le procès de Koblenz, ces enquêtes en compétence universelle, elles ne sont qu'un pis-aller, c'est une étape. Mais que le but ultime, l'objectif, non seulement pour ces activistes, mais je pense pour l'essentiel des victimes syriennes, c'est la justice transitionnelle en Syrie. C'est un processus qui permettra que les responsables soient sanctionnés, que les victimes soient rétablies dans leurs droits, et aussi que les revendications de ces victimes, hein, j'en parlais tout à l'heure, les détenus qui sont encore détenus, l'accès au corps, toutes ces familles qui ont perdu des proches et qui n'ont pas pu enterrer leurs proches, toutes ces revendications-là sont très liées à un processus de justice transitionnelle. Donc il y a une grande conscience parmi la communauté syrienne que tout cela n'est qu'en quelque sorte une étape, un détour, je dirais, un détour par Koblenz, par Paris ou ailleurs, mais que, encore une fois, l'objectif ultime, c'est de parvenir à une justice transitionnelle, une forme de justice en Syrie, là où cela serait bien sûr le plus proche des victimes et le plus proche des crimes commis. Et en cela, il est évident que cet effort, en effet, de conservation des preuves peut jouer parce que cela veut dire aussi que cette justice, elle a le temps d'intervenir et que si elle intervient dans 10 ans ou dans 20 ans, les preuves, en attendant, auront été conservées.
À quoi sert encore la justice internationale ? C'est la question qui nous occupe dans le temps du débat jusqu'à 19h. Une question que s'est aussi posée un certain Bob Marley.
France Culture, le temps du débat d'été. Camille Diao.
Until the philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited
abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality.
War, guerre, une chanson de Bob Marley inspirée d'un discours prononcé en 1963 par l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié Ier, qui s'exprime devant l'Assemblée Générale des Nations Unies et appelle l'institution à œuvrer pour la sauvegarde de la paix et de la justice dans le monde entier. Un discours et un morceau qui résonnent donc avec notre thème du jour. À quoi sert encore la justice internationale, dont débattent nos trois invités: Clémence Bechtart, avocate à la Fédération Internationale pour les Droits Humains, Sarah Dezallet, enseignante, chercheuse en sociologie et droit international à l'Université de Cardiff, et Anne-Charlotte Martineau, chargée de recherche au CNRS et à l'ENS. Alors, outre les crimes syriens, cette compétence universelle, elle a été évoquée cette année, invoquée par une juridiction argentine qui enquête sur le génocide des Rohingyas, la minorité musulmane persécutée au Myanmar, l'ancienne Birmanie. Mais sur le même sujet, eh bien, la Gambie avait saisi fin 2019 la Cour internationale de justice pour poursuivre le Myanmar quant à la persécution des Rohingyas. Est-ce qu'on est dans un cas où les justices nationales et internationales se retrouvent en concurrence, Anne-Charlotte Martineau?
Alors, je crois qu'il faut faire quelques distinctions. Vous avez mentionné la Cour internationale de justice,
qui est l'organe de l'ONU.
Voilà, et qui statue sur des disputes entre États, ce qui est tout à fait différent de la justice pénale internationale, où des individus sont poursuivis pour avoir commis des crimes, enfin les crimes les plus graves, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, etc. Donc la justice, disons que le paysage de la justice internationale est extrêmement varié et peut y avoir parfois des désaccords ou des dissensions, de la concurrence. Donc ce n'est pas uniforme ou harmonieux. Et il faut encore ajouter à cela les juridictions nationales, comme le montre le procès de Koblenz, et la justice transitionnelle. Donc c'est extrêmement varié et complexe aussi.
Effectivement, mais la justice internationale est régulièrement pointée du doigt, critiquée pour son inefficacité. Qu'est-ce qu'on reproche à la Cour pénale internationale et aux autres institutions de cette justice?
Alors je crois que la CPI, la Cour pénale internationale, a suscité beaucoup de critiques. On a entendu, enfin, je crois qu'à juste titre, dire qu'elle était lente, coûteuse et inefficace. Son budget pour la seule année 2020, j'ai été estomaquée, il est de 150 millions d'euros. Et elle emploie près de 900 personnes. Et si on examine les activités de la CPI depuis 2002, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur du statut de Rome, on s'aperçoit que les juges ont rendu 8 condamnations et on fait 4 acquittements, c'est-à-dire qu'ils ont rendu moins d'un jugement par an. Certes, les affaires sont extrêmement compliquées, mais c'est un bilan fort mitigé pour 18 années d'exercice. Une autre critique qu'on entend très souvent et qui est revenue déjà dans la discussion, c'est que cette juridiction est hautement politisée. Et si elle est politisée, elle fait fi du principe fondamental selon lequel nul est censé être au-dessus des lois. C'est le cas de la CPI, puisque les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ont un droit de veto, comme on le voit dans le cas de la Russie pour les crimes perpétrés en Syrie. Une autre variante de cette critique consiste à mettre l'accent sur la sélectivité de la justice pénale internationale, et plus précisément encore sur le biais africain de la CPI. C'est une critique qu'on a beaucoup entendue ces dernières années, et il est vrai que l'essentiel des affaires faisant l'objet d'une enquête de la CPI visent des crimes africains,
que la majorité des mandats d'arrêt lancés par la Cour ciblent des Africains, que le premier condamné était un Africain et que toutes les personnes détenues par la Cour sont des Africains. La critique consiste à dire que sous couvert d'une rhétorique universelle, à savoir la répression des crimes les plus graves, la CPI exercerait une forme d'impérialisme judiciaire ou de néocolonialisme, comme vous l'avez dit, en se concentrant quasiment exclusivement sur un seul continent.
Est-ce que ça correspond à une réalité, Anne-Charlotte Martineau ?
Alors, c'est pas simple de répondre à cette question, mais je crois qu'on ne peut pas rejeter cette critique en disant simplement que l'afrocentrisme de la Cour est conjoncturel et non pas structurel. Je crois que c'est important d'examiner plus en profondeur le fonctionnement de la Cour et les décisions qu'elle prend. J'ai examiné les décisions de la Cour et aussi du tribunal spécial pour la Sierra Leone et je vais donner un exemple, à savoir la condamnation de crimes. La CPI a condamné des crimes qui seraient à la fois particulièrement odieux et spécifiquement africains. Le recrutement des enfants soldats ou les mariages forcés, bushwives. Le problème de ce genre de construction juridique, selon moi, c'est qu'elle renforce l'idée de victime absolue sur lequel repose aussi l'interventionnisme occidental. C'est au nom d'une meilleure protection des enfants et des femmes que sont entreprises d'innombrables actions humanitaires en Afrique. Or, cette façon d'intervenir au nom de la protection des personnes vulnérables, donc il faudrait aider, protéger, civiliser, est aussi l'une des caractéristiques de la colonisation. D'où un rapprochement possible entre la justice pénale internationale et le discours colonial.
Sarah Dezallet ?
Je partagerai ce point pour confirmer qu'effectivement, il y a à l'évidence une crise de la justice pénale internationale telle qu'incarnée par la Cour pénale internationale. Mais il faudrait faire attention au système d'opposition politico-idéologique que le vocable et la vision d'une crise galvanisent. Quelque part, les moments de crise ont cela d'intéressant qu'ils permettent d'observer des contradictions qui étaient là dès le départ. Et ils peuvent aussi permettre de replacer ce qui apparaît comme des ruptures dans le temps long, dans des legs laissés par le temps long. Et pour ça, il faudrait confronter les impensés sur la justice internationale. Un premier impensé, c'est cette contradiction extrêmement forte à l'heure actuelle entre ce qui apparaît comme un sens commun réformateur, si on peut l'appeler ainsi, cette idée quasiment universelle, qu'on ne peut pas laisser passer certains actes, qu'ils sont tellement odieux que la communauté internationale en son entier doit les repousser ou les interdire. Donc ce sens commun naît une justice internationale qui est institutionnalisée ou qui est actée d'une manière extrêmement contradictoire, à la carte ou qui s'opère dans un système qui reste extrêmement instable. Pour remettre ça sur la table, quelque part, ça permet de se souvenir que la CPI, c'est comme un iceberg. C'est la partie la plus visible, quelque part, de cet horizon réformateur. Mais la CPI peut faire certaines choses, elle ne veut pas tout faire. Et l'une des impasses qui entourent les débats, les critiques et des promoteurs de la CPI, c'est les impensés sur les rapports entre droit et politique. Il y a un aveuglement réciproque entre droit et politique. Le premier procureur de la CPI, Moreno Ocampo, avait cette formule habile. Il disait « Pour nous, le droit international, c'est du droit. Pour les autres, c'est de la politique par d'autres moyens. » Or, on a tendance à considérer que la CPI, c'est un tribunal comme les autres, c'est-à-dire un tribunal comme on en voit dans le système national. Mais la CPI, ça n'est pas un tribunal comme les autres. Pour ça, il faudrait qu'elle opère dans un environnement géopolitique stabilisé, où il y a un rapport de sens stabilisé entre des faits commis, des crimes, et la portée politique qu'on leur prête. Un deuxième impensé, et qui est de taille, et ça m'a fait sourire quand vous avez passé cette chanson de Bob Marley, c'est le socle moral de Nuremberg, et l'impensé sur ce socle moral de Nuremberg. On a longtemps évoqué, enfin surtout à partir des années 90 évidemment, la résurgence de ce qu'on a appelé un esprit de Nuremberg. Cette idée que les poursuites engagées contre des dignitaires nazis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça permettait d'écrire l'histoire autrement. Un plus jamais ça. Plus jamais de crimes commis sur une base raciale contre certains groupes d'individus. Mais on oublie que Nuremberg a été accompagné d'autres procès qui se sont déroulés à Tokyo, qui, eux, ont été pilotés, si j'ose dire, par des juges qui venaient de cet autre monde d'alors. Ce monde dans lequel vivaient les trois quarts de l'humanité, c'était le monde colonisé. C'est-à-dire que Nuremberg, le contexte de Nuremberg, c'était tout simplement l'Empire. Et ça, cette portée, donc ma collègue a parlé de néocolonisation, hein, de biais africains. Évidemment, il faut le décortiquer, finalement. Il faut prendre en compte le fait que les pays africains eux-mêmes ont voulu la CPI, que eux-mêmes ont été les premiers pourvoyeurs de cas vers la CPI. Mais ce biais racialisé de ce socle moral de Nuremberg, il est bel et bien présent. On le voit dans la preuve qui est constituée devant la CPI, telle qu'elle a été constituée, en tout cas la portée symbolique hein, de cette preuve dans les affaires à la CPI jusqu'à présent. On a tendance à toujours vouloir voir dans les violences des situations africaines, des violences qui sont aveugles, des violences qui sont apolitiques, qui sont incompréhensibles selon une logique européocentrée.
Clément,
un troisième
ouais,
et dernier
conseil,
je finis là, je vous promets, c'est pour revenir sur cette fragmentation, hein, de cette idée qu'il y aurait une concurrence entre les différentes juridictions internationales. Peut-être pour aller au-delà d'une idée d'une concurrence, il faudrait aller au-delà de l'idée d'un jeu à somme nulle entre différents niveaux d'international ou entre national et international. Et revenir finalement sur le début de la discussion, qui était cette imbrication qui est accélérée, qui est encore plus visible aujourd'hui, entre des acteurs nationaux et internationaux, et surtout des acteurs nationaux qui invoquent l'international pour rebattre les cartes au niveau national.
Alors justement, une des questions qui se pose face à toutes ces critiques et toutes ces impensées que vous venez de nous présenter, c'est le retour de cette justice internationale dans les pays concernés. On sait que l'Union africaine a lancé il y a quelques années le protocole de Malabo qui vise à instaurer un tribunal pénal à l'échelle du continent. Clémence Bechtart, est-ce que ça vous paraît une initiative souhaitable, régionaliser la justice internationale pour qu'elle soit plus proche des crimes qu'elle juge?
Alors oui, bien entendu, et c'est d'ailleurs ce qu'on doit souhaiter, hein. Il faut le rappeler, et ça fait écho à ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que la Cour pénale internationale ne peut pas tout, et il n'a jamais été question qu'elle puisse tout. Donc je dirais qu'il y a déjà un certain nombre de critiques qui font écho aux espoirs parfois démesurés que cette Cour pénale internationale a suscité. Bien évidemment que l'Union africaine mette en place une cour pénale qui aurait vocation à juger le même type de crimes, c'est-à-dire le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre au niveau du continent africain. Ce serait une excellente nouvelle si les conditions étaient les mêmes, je dirais, que celles prévues par le statut de Rome. Or, il se trouve que le protocole qui était en train d'être discuté au niveau de l'Union africaine exclut le fait que des chefs d'État en exercice puissent comparaître devant ce qu'il serait une cour pénale africaine à vocation donc de juridiction pénale internationale.
Ça, c'est problématique.
Or, c'est un recul.
C'est un recul.
Ce serait bien évidemment problématique et ce serait un recul par rapport à ce que prévoit la Cour pénale internationale, qui prévoit la levée de l'immunité des chefs d'État en exercice lorsqu'il s'agit bien sûr de crimes relevant de sa compétence. Mais il faut le souhaiter, il faut souhaiter que d'autres cours ou juridictions prennent le relais, je dirais. Parce que quand on parle de crimes de masse, on parle de quoi? D'abord, on parle de multiplicité d'auteurs, de responsables. Et le mandat de la Cour pénale internationale, c'est de juger les plus hauts responsables des crimes les plus graves. Donc la CPI n'aura jamais vocation à mener des procès d'un grand nombre d'auteurs et qui permettraient de rendre justice à l'ensemble ou alors à la majorité des victimes d'une situation de crimes de masse. Donc il faut aussi qu'il y ait d'autres relais. La justice pénale internationale, elle doit être pensée comme une architecture et non pas de voir la Cour pénale internationale comme seule cour pouvant tout et pouvant en elle-même et à elle seule répondre à la quête de justice des victimes. Je pense que c'est ce qui a peut-être la vision qui a prospéré dans la première décennie avec des espoirs assez démesurés vis-à-vis de cette Cour pénale internationale. Oui, un biais africain, et ça la FIDH a été la première à le dénoncer, bien évidemment, une partialité dans les poursuites dans les premières années, qui était due aussi, et cela a été rappelé, au fait que nombre d'États africains avaient eux-mêmes déféré des situations à la Cour pénale internationale, mais qui est aussi liée, et là je pense qu'il faut distinguer, et c'est important, les reproches qu'on peut formuler à l'encontre de la Cour pénale internationale, de son bureau du procureur, de sa politique pénale, de la manière dont les juges sont nommés, de la célérité ou non des procédures, des reproches qu'il faut adresser aux États. Si la Cour pénale internationale n'est pas aujourd'hui une cour qui a une vocation véritablement universelle, c'est parce qu'un certain nombre d'États puissants ne l'ont pas ratifiée. C'est parce que la Chine, la Russie, les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de cette cour, que la cour est du coup empêchée dans sa vocation universelle. Ça, c'est un facteur qu'il faut sans cesse rappeler et renvoyer aussi à la responsabilité des États. Enfin, je noterai qu'il y a eu un rééquilibrage de la politique pénale ces derniers temps, lié notamment à la procureure qui a succédé à Luis Moreno Ocampo, qui est la procureure actuelle Fatou Bensouda, qui finira son mandat dans quelques mois, avec des enquêtes ouvertes sur des crimes commis en Géorgie, une enquête ouverte concernant des crimes commis au Myanmar, en tout cas dans la partie des crimes commis dans l'État voisin, le Bangladesh, qui avait ratifié, et puis ne pas oublier non plus l'ouverture de l'enquête visant l'Afghanistan, les crimes commis en Afghanistan, et qui pourrait inquiéter de hauts responsables de la CIA. Donc on le voit là, une réorientation, je dirais, de cette politique pénale, non seulement pour sortir du biais africain des premières années, mais aussi pour réorienter vers ce qui est fondamental aujourd'hui dans la perception de la justice pénale internationale, c'est-à-dire sa capacité à s'attaquer aux puissants, à ceux qui ont le plus de moyens pour s'opposer à cette justice, pour la contrecarrer. Et quand on voit, et je finirai là-dessus, les attaques de l'administration Trump contre la Cour pénale internationale, quand on voit la réaction à cette ouverture d'enquête sur l'Afghanistan, avec ces mesures passées qui menacent d'interdiction de séjour et d'entrée aux États-Unis les personnels de la Cour et toute personne ayant contribué à cette enquête, eh bien on voit bien là qu'on entre dans le dur, je dirais, et donc à cette question fondamentale de savoir si la Cour pénale internationale tentera dans les prochaines années de démontrer, lorsqu'elle le peut juridiquement, sa capacité aussi à rééquilibrer et à s'attaquer aux puissants.
Alors, je voudrais juste préciser qu'il y a 13 enquêtes en cours aujourd'hui à la Cour pénale internationale, 10 enquêtes africaines et 3 enquêtes hors d'Afrique, les 3 enquêtes que vous venez de citer. Il y a d'autres choses qui ont été tentées dans l'histoire de la justice internationale, notamment en 2014 au Cambodge, où la justice a été rendue dans le pays concerné lors du procès, en 2014 c'est le procès de 2 responsables du régime des Khmer Rouges, avec la mise en place de chambres dites mixtes. Écoutez, Patrick Baudouin, l'avocat des parties civiles.
Alors, le rôle de l'AIFIDERJ a d'abord été, avant même la création des chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens, tout un travail de lobbying vis-à-vis des Nations Unies, enfin dans le cadre de tous les pourparlers qui ont précédé, et pour aboutir finalement à ces chambres hybrides, mais extrêmement intéressantes, qui confèrent à cette juridiction, je pense, une légitimité assez grande parce que ça se passe au Cambodge, parce qu'il y a des juges cambodgiens, mais aussi parce qu'il y a des juges internationaux de renom, bon, qui ont peut-être une meilleure formation, une meilleure connaissance de ce que peut être ce droit international extrêmement complexe en réalité, qui est celui des crimes de masse.
Anne-Charlotte Martineau, chercheuse en sciences du droit et sociologie au CNRS, ces chambres mixtes, comment elles fonctionnent? Est-ce que c'est un modèle qui pourrait se généraliser, s'étendre à d'autres procès internationaux?
Alors c'est un modèle qui a vu le jour à la fin des années 90, donc il y en a eu au Cambodge, en Sierra Leone, au Kosovo, au Timor oriental, et l'idée était effectivement de prendre les meilleurs aspects, si l'on veut, de la justice internationale et les meilleurs aspects de la justice nationale et de faire en sorte qu'on ait une justice assez rapide, moins chère et plus efficace. Je crois que le bilan est assez mitigé dans l'ensemble. Je sais que les chambres du Cambodge ont souffert d'un manque de moyens à la fois financiers et humains importants. Au Kosovo, la même chose. Et c'est pourquoi on n'a pas vu le modèle se répliquer dans les années 2000-2010 et qu'on a plutôt tendance à voir des juridictions nationales prendre le relais.
Alors, comment faut-il réformer la Cour pénale internationale? C'est une question qui se pose actuellement. 9 experts, un collège de 9 experts indépendants penchent sur la question. Ils doivent rendre leurs recommandations fin septembre. Sarah Dezallet, quelle réforme serait selon vous souhaitable pour que le travail de la Cour pénale internationale soit à la fois plus légitime et plus efficace?
Bon, il y a une condition d'opportunité hein, qui va arriver dans les mois qui viennent avec l'élection d'un nouveau procureur ou d'une nouvelle procureure, et ça va changer la donne. Enfin, ça peut changer la donne selon le profil du candidat ou de la candidate choisie. Ça, c'est une première condition. Il faut trouver la perle rare, hein, la rare en d'autres termes. Il faut trouver quelqu'un qui soit capable d'impulser une politique de poursuite à la Cour pénale internationale, chose qui a fait défaut dans une large mesure depuis la création et l'entrée en vigueur du statut et l'opérationnalisation de la Cour en 2002. Et il faut aussi quelqu'un qui soit capable de maintenir le front contre les États-Unis. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui me paraît absolument fondamentale, ce serait de faire en sorte que la preuve ne soit plus le cousin pauvre des poursuites pénales au sein de la Cour pénale internationale. Il y a eu trop tendance, et c'est quelque chose pour laquelle la Cour pénale internationale a essuyé énormément d'échecs depuis le début, il y a eu tendance à s'appuyer trop sur la distance pour construire les poursuites. C'est-à-dire des courts séjours dans les pays impliqués, de 15 jours, des toutes petites équipes ou des équipes trop éclatées, et un appui trop conséquent sur des intermédiaires. Il faudrait en fait un peu moins de distance entre la CPI et les situations des pays impliqués.
Clémence Bechtartre, et je vous laisse, il nous reste 20 secondes, je vous laisse nous dire très rapidement quelle réforme serait souhaitable. Est-ce que vous souscrivez à ce que vient de nous dire Sarah Dezallet?
Oui, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudrait réformer, les conditions de nomination des juges, je le disais, les méthodes d'enquête, bien évidemment, pour donner aux enquêteurs la capacité d'enquêter plus longtemps sur le terrain et de recueillir des preuves matérielles au lieu de se reposer sur la distance, comme c'était mentionné, ou parfois trop, ce qui a été reproché aussi sur des rapports d'ONG ou des enquêtes faites par d'autres, et notamment la société civile. Donc tout un ensemble d'éléments, et d'ailleurs l'AICDH, comme d'autres ONG, contribue activement à ce processus de révision en présentant aussi les préoccupations des victimes et des organisations de la société civile à travers le monde qui continuent, et ça je voudrais conclure là-dessus, d'apporter un regard plein d'espoir sur la Cour pénale internationale, non pas comme une Cour qui peut tout, mais comme une Cour qui peut impulser des choses et impulser un processus de justice internationale. Et je pense qu'elle doit continuer à jouer ce rôle. Il faut penser complémentarité, il faut penser architecture du système de la justice pénale internationale et continuer aussi à se tourner vers cette Cour et à continuer de placer la lutte contre l'impunité parmi les grandes priorités de notre siècle.
Merci à vous Clémence Bechtartre. On suivra de près le résultat du procès de Koblenz et ses effets sur la future marche de la justice internationale. Merci à toutes d'être venues participer à ce temps du débat. Clémence Bechtartre, Sarah Dezallet, Anne-Charlotte Martineau. Et merci encore une fois à l'équipe du Temps du Débat d'été pour la préparation de l'émission. Sophie Alavi, Audrey Dugas, Alexandra Dalbo, Nicolas Berling, Mathilde Thon-Fourcade. Ce soir à la technique, c'est Adèle Caglar. À la réalisation, Émilie Valla. Et demain, dans les matins d'été, il sera question de relance avec l'économiste Patrick Arthur. Quant à nous, on se retrouve à 18h15 pour se demander s'il existe ou non une identité noire en France. Ce sera le dernier Temps du Débat de la semaine. D'ici là, très belle soirée sur France Culture et à demain.